Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, votre 5-7 préféré, surtout depuis que je suis de retour. La semaine dernière, c'est en effet Julien Pierce qui me remplaçait. Même Eva s'était absentée 2 jours, une absence remarquée. Son retour vendredi avait d'ailleurs constitué un événement.
Bonjour, 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 j'ai pas manqué. On peut pas faire 2 choses en même temps. Taper sur l'ordinateur, trouver le micro, le son, tout ça.
Eh bien, elle nous avait pas manqué hein, pendant 2 jours. Hein.
Heureusement pour vous et pour cette émission, je suis donc de retour. Une joie pour les auditeurs, mais aussi pour les équipes en régie qui le savent. Je suis un patron dur, mais juste.
Qui est le con qui m'a mis que le son c'était Eva alors que c'était Céline? Si le con c'est moi, je me vire.
Mais debout les copains, comme quoi il y a une logique. Il y a une logique. Hein. Mais debout les copains, ce n'est pas que les lubies d'un tyran helvète, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, début du bac oblige, reviendra sur l'histoire de ce passage obligé avant le grand saut dans l'enseignement supérieur.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 17 juin. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actu de ce 17 juin. Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Dans 2 heures maintenant, les élèves de terminale sont en train de plancher sur la première épreuve du bac, la philo. Grande inconnue, l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats pour protester contre la réforme de l'examen. Jonathan Daval est arrivé peu avant 5h ce matin sur les lieux de la reconstitution du meurtre de son épouse Alexia. De nombreux agriculteurs attendent la déclaration de catastrophe naturelle après les violents orages de samedi qui ont ravagé de nombreuses cultures. Le mondial de foot féminin, le Nigeria affronte la France ce soir à Rennes et puis le PSG prêt à laisser partir Neymar. Jérôme Lacroix revient dans le journal des sports.
Europe 1.
Le bac philo, première épreuve ce matin à 8h. Jean-Michel Blanquer le répète, l'examen aura lieu normalement. Des syndicats de professeurs ont pourtant appelé à une grève de la surveillance pour protester contre la réforme du bac qui entrera en vigueur l'année prochaine. Un tiers de surveillants supplémentaires ont donc été convoqués dans les académies où la mobilisation risque d'être plus importante. Toulouse, Lyon, Marseille. Annie est professeure de lettres au lycée Rimbaud à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Elle a été convoquée pour surveiller la philo et voici ce qu'elle va faire aujourd'hui.
Pour montrer à mon administration que je suis gréviste, eh bien, je me présenterai au lycée à l'heure prévue, hein, à 7h30, pour dire voilà, je suis gréviste, ne comptez pas sur moi pour la journée. Ça me permettra aussi de rencontrer mes collègues, dont certains ont déjà décidé qu'ils seraient grévistes, d'autres non. Il y aura peut-être une AG. Et il faut préciser que si d'aventure certaines épreuves ne pouvaient pas se tenir dans certains établissements, ces élèves-là seraient reconvoqués. Oui, on est dans une situation totalement exceptionnelle. Alors, ça fait toujours un peu tarte à la crème de dire ça, parce qu'on a l'impression de le dire chaque fois. Mais cette grève est une journée essentielle de la mobilisation de l'année.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents et aux élèves? Ils pourraient ne pas comprendre.
On est en grève pour eux. Ça n'est pas notre but de perturber le bac, notre but c'est de le défendre.
Propos recueillis par Nathalie Chevance pour Europe 1. La reconstitution du meurtre d'Alexia Daval se déroule en ce moment en Haute-Saône. Jonathan Daval, le mari qui a avoué le meurtre, est arrivé peu avant 5h ce matin. La reconstitution doit éclaircir plusieurs points, notamment celui de savoir qui a tenté de brûler le corps de la jeune femme.
Après une semaine de cavale maintenant, le chauffard de Lorient reste introuvable.
Au volant de sa voiture, le jeune homme de 20 ans est soupçonné d'avoir percuté 2 garçons. L'un est mort, l'autre a été grièvement blessé. Les appels à témoins n'ont rien donné pour l'instant. Écoutez Ahmet Makas, il est membre de l'association culturelle turque de Lorient, porte-parole de la famille des 2 garçons fauchés.
On attend tous, hein, je pense que même tout Lorient attend qu'il soit attrapé. J'espère. Voilà, que ça va être imminent, mais c'est vrai que l'attente est longue quand même. On veut juste qu'il se fasse attraper et qu'il paye pour ce qu'il a fait, tout simplement. On ne veut pas qu'il se fasse du mal non plus. On ne veut pas qu'il y ait un drame sur un drame comme ça. On veut juste que justice soit faite pour lui parce qu'il a commis un acte grave qui a coûté la vie à un enfant. Et il y a un autre qui se bat quand même hein, pour survivre. Je ne lance plus d'appel pour qu'il se rende. Je veux juste dire à des personnes qui l'auraient peut-être vu, qui auraient peur peut-être aussi pour eux, parce que c'est vrai que quand on n'est pas complice, mais quand on est impliqué dans cette histoire-là, sans le vouloir peut-être, on a peut-être peur de parler. J'appelle plutôt à eux qui mettent les enquêteurs sur les bonnes pistes. Puisque lui, je pense que d'après tous les appels qu'on a faits, il ne s'est pas rendu. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il se rendra. Je fais plutôt confiance à la police. Et je pense qu'ils doivent avoir des pistes et j'attends juste des nouvelles. Des bonnes nouvelles de leur part.
Ahmet Makas au micro européen d'Hélène Terzian. Certains ont tout perdu, la récolte de cette année, mais peut-être pas seulement. Les arbres fruitiers ont été très endommagés par de violents orages de grêle samedi en Auvergne-Rhône-Alpes. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré d'ici demain. Certaines écoles resteront fermées ce matin, comme celle de Bourg de Péage dans la Drôme. C'est là que Rémi Pierre a rencontré Nathalie Niesson, maire de la ville.
Cette école qui est l'école la plus touchée, avec 90% des vitres qui ont explosé, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, elles ont explosé, avec la cour qui est aussi dévastée. Donc il y avait deux objectifs urgents, la mise en sécurité, le nettoyage pour faire en sorte que la vie redevienne le plus normal possible, le plus vite possible. Moi, j'ai eu des témoignages des enfants qui ont eu très peur parce que ça a été tellement violent, il y a eu tellement de bruit, tellement de vent, le ciel s'est assombri d'un coup, enfin, presque comme si c'était l'apocalypse. Donc, le principe, c'est d'essayer de les rassurer puis de faire en sorte que la vie reprenne son cours le plus vite possible.
La maire de Bourg, péage au micro repas de Rémi Pierre.
2000 jeunes de 15-16 ans ont commencé hier une période de 15 jours au sein du Service National Universel, le CNU.
Le SNU, oui, c'est la première expérimentation, ça se passe dans 13 départements pilotes, il y a au total 450 encadrants, tous les Français sont pris en charge, sont pris en charge par l'État, les frais, le reportage d'Aude Leroy.
Martine n'en peut plus d'attendre, partie tôt hier matin du Puy-de-Dôme pour rejoindre les Pyrénées. Cet ado de 15 ans qui rêve d'être militaire a pris le strict minimum dans sa valise. Et s'il s'est décidé en une heure seulement à être volontaire, il appréhende un peu ces deux semaines.
Bah honnêtement, je suis à la fois stressé et impatient de ce qui va se passer, mais je redoute un tout petit peu parce que je suis pas sûr de ce qui va se passer et de comment ça va se passer. Mais je pense que ça va être très très bien.
Les journées vont être intenses, sport, self-défense ou encore code de la route. Marty attend aussi beaucoup de la sensibilisation aux valeurs de la France.
On est une génération qui en prend plein la tronche et on va continuer à en prendre quand on va grandir. Et savoir réagir face à ça, trouver des gens qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes valeurs et peut-être donner des valeurs à des gens qui n'en ont, je vais pas dire pas, mais qui peut-être n'ont pas conscience de ces valeurs. C'est quelque chose de très important.
C'est toute une génération qui va être brassée, lycéens, décrocheurs scolaires, apprentis, venus même de Guyane, tous en uniforme avec pour commencer la journée la levée des couleurs à 8h du matin.
Reportage signé Aude Leroy pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann qui, vous en doutez, est la journaliste de la rédaction qui m'a le plus manqué la semaine dernière. Pourquoi ? Eh bien parce que Céline Kallmann, ce n'est pas qu'un charme envoûtant, un professionnalisme épatant, c'est aussi parfois, notamment lorsqu'un invité a un nom ridicule, un esprit facétieux et taquin que j'adore.
Et puis à 6h20, je reçois un homme passionnant, l'archéologue Jean-Paul Demoule, à l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie qui débutent aujourd'hui.
Toute la question est de savoir ce qui démoule.
On est tellement fait l'un pour l'autre, Céline. Et vous ne le voyez pas, c'est vraiment dommage. C'est un foutu gâche.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, Fabrice Dalméda aura une pensée pour tous les candidats au bac qui vont trembler aujourd'hui en revenant sur l'histoire de la plus emblématique.
Bon réveil.
Je n'ai pas trouvé la phrase.
Emblématique des examens,
féminin.
Oui.
Et en fait, j'ai vu que c'était le mot examen. Le mot examen n'étant pas féminin,
épreuve.
Je me suis retrouvé gros gens comme devant.
Épreuve
est le mot que je cherchais, bravo. Et
on est complémentaires.
Tout
bon réveil, il est 6h07. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Céline, c'est une belle journée qui nous attend aujourd'hui.
C'est ça, très belle journée avec beaucoup de soleil, des températures en hausse. Cet après-midi, la moyenne ira de 24 à 27 degrés, 28 à 32 sur l'extrême sud, 32 degrés attendus à Nîmes, 27 à Paris. Ce sera un petit peu moins chaud près des côtes de la Manche avec 20 à 23 degrés. Côté ciel, du soleil, mais aussi quelques nuages. Il faut les chercher, mais on en trouve notamment ce matin le long des côtes de la Manche. Et puis cet après-midi, du Jura aux Alpes avec un risque orageux. Nuages aussi sur les Pyrénées avec là aussi un risque d'averse sur les sommets.
Merci beaucoup. Eva Rock.
On a beaucoup de messages depuis ce matin 5h à propos de vos souvenirs de baccalauréat, puisque c'est le grand jour aujourd'hui pour les futurs bacheliers. Stéphane, par exemple, il nous dit bac technique en poche. Merci le coefficient 5 en dessin industriel qui m'a permis de remonter un 3 en philosophie. C'était souvent le cas. Et puis Tara qui nous dit angoisse pour les oraux, mais le meilleur souvenir, et c'est pas la seule à nous le dire, ça a été la fête évidemment.
Après les épreuves.
Alors moi j'ai fait deux fois. J'ai fait après les épreuves.
Est-ce que
vous faisiez le monom? Vous vous souvenez du monom ou pas? C'est une épreuve ancestrale qu'on faisait après la fin des épreuves. Justement, c'était la veille des épreuves avec farine et œufs dans le lycée.
La veille des épreuves?
Ouais.
C'est pas très malin, on va mieux le faire après.
Non, mais c'était pour se défouler avant l'angoisse des examens.
Pour exorciser.
Exactement.
Merci beaucoup Eva, merci à tous.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Ce n'est pas seulement un héros du sport qui nous rejoint, mais un héros du quotidien. Un de ceux qu'on appelle Papa Courage, qui réussissent, au prix parfois de leur santé, à conjuguer activité professionnelle intense et accompagnement des sorties scolaires. Le tout avec le sourire, ou presque.
Putain, je suis chaud là. Après, je pars en sortie scolaire toute la journée au poney. Là, ça va être.
Hein ? C'est l'enfer.
Il a avoué. Voici Jérôme Lacroix pour le journal de la Coupe du Monde féminine.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Au sommaire ce matin, Jérôme.
Les Bleus en chanson et en confiance avant d'aborder ce soir le match contre le Nigeria. Une dernière rencontre du premier tour confite d'intérêt, même si les Françaises sont déjà qualifiées. Et la belle histoire des Thaïlandaises. Un premier but en Coupe du Monde, ça s'oublie pas.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle. Wow.
Happy day, heureux comme les jours, heureuses comme les bleus. Vous entendez ici la joueuse, notamment Grace Gueyoro, lors d'un moment de détente mis en ligne sur Instagram. Alors elle semble sereine, hein, les Françaises, à l'aube de Nigeria-France ce soir. Troisième et dernier match du premier tour. Des bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, mais qui visent une victoire, encore une. Ce serait la troisième en trois rencontres dans ce mondial, histoire d'achever le premier tour en tête du groupe de qualification. Et outre les entraînements, les séances vidéo, etc., la musique, oui, tient une place certaine dans le groupe. On entend souvent ça, par exemple. Aya Nakamura, c'est jeune ça, elle fait à peu près l'unanimité dans le groupe. Il y a aussi ça par exemple. Giant du DJ Calvin Harris, ça c'est l'une des chansons à préférer de la capitaine Amandine Henry. Des soupapes nécessaires, ces musiques, se réjouit la sélectionneuse Corinne Diacre, qui préfère, là encore, comme pendant les matchs finalement, rester sur la touche.
Écoutez, pour ma part, je ne me déhanche pas. Non, vous savez, il faut laisser une part de responsabilité et puis de vie commune aux filles. C'est leur truc à elles. C'est aussi bien, ça me permet de connaître un petit peu la musique que peuvent écouter les plus jeunes. Donc c'est toujours intéressant de s'ouvrir.
Et ce soir, les Nigérians auront aussi un intérêt à ce match puisqu'elles peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.
Corinne Diacre devrait d'ailleurs effectuer quelques changements.
Oui, au coup d'envoi, on attend 4 ou 5 nouvelles joueuses d'habituelles remplaçantes qui, même si elles jouent moins, sont tout aussi importantes pour la cohésion du groupe France, la capitaine Amandine Henry.
Pour moi, les remplaçantes ont un rôle primordial. C'est grâce à elles qu'on si on se sent bien sur le terrain. Donc, fêter tout ensemble les buts, c'est pour moi normal. Elles font partie du groupe et puis c'est pas à 11 qu'on va gagner une compétition, mais tout ensemble, et c'est super important.
Nigeria-France, soirée spéciale sur Europe 1, dès 20h, match à suivre en intégralité, rencontre qui se tient à Rennes. 29 700 spectateurs attendus, tribune pleine une nouvelle fois.
La belle histoire des joueuses de la Thaïlande.
Pourtant, elle démarre mal, mon histoire. Ces joueuses qui, lors des deux premières rencontres, ont encaissé 18 buts. 13 contre les États-Unis, 5 contre la Suède. Mais à la dernière minute hier contre la Suède, eh ben, elles sont parvenues à inscrire un but fêté comme une victoire, le premier de leur nation en Coupe du Monde d'âme. Les joueuses, les membres du staff sur le bord du terrain, certaines étaient en larmes. Les Suédoises ont gagné cette rencontre à 5-1, qualifiées pour les huitièmes, comme les Américaines qui ont battu de leur côté les Chiliennes 3-0.
On a démarré en chanson, je vous propose de boucler la boucle.
Et oui, vous entendez la joueuse brésilienne Marta, l'une des meilleures attaquantes du monde, qui sait aussi jouer du ukulélé et qui plus est pour plaider en chanson la cause des femmes. Voici le refrain de sa chanson. Et alors, qui a dit que le football n'était pas pour les femmes ?
Magnifique. Fin musicale pour votre chronique. C'est un son et lumière, ce journal. Bah
aujourd'hui,
je le découvre.
La chanson. J'avais
impressionnant.
Envie de ça ce matin.
Merci. C'était le journal du mondial de Jérôme Lacroix. Et à présent, on accueille celui que Céline Dacosta écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Elle adore l'histoire. Tellement que parfois, on sent qu'elle aimerait apporter une précision à la chronique de Fabrice d'Almeida. Heureusement, elle s'en abstient.
Qui empêche l'approche des grosses péniches de débarquement de matériel.
En portugais, la péniche, c'est autre chose que la péniche.
Quelle belle contribution. Fabrice Almeida, vite.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Alors justement, les épreuves du bac débutent aujourd'hui, soyons sérieux. Philosophie en terminale et français en première. Mais à quand exactement remonte le bac ?
Au XIIIe siècle, presque dès la création de l'Université de Paris, car c'est en France que le baccalauréat, littéralement cette couronne de laurier, a été créé avant d'être reprise partout dans le monde. C'est sous Napoléon, en 1808, qu'est instauré le bac de lettres. C'est le premier grade universitaire nécessaire pour passer le bac de sciences. Ces deux bacs ont été fondus en 1890 avec deux trains d'épreuves, dont celle de lettres, encore aujourd'hui en première.
Et Quand a commencé l'épreuve de dissertation ?
On appelle ça la composition française. Et la première tentative d'en faire une grande épreuve écrite se situe entre 1853 et 1857. Les sujets touchaient la littérature, l'histoire et la philosophie. J'en ai retrouvé quelques-uns dans les annales. Je ne suis pas sûr que nous pourrions les réussir. Allez, à Bordeaux, en 1853.
Dites toujours.
Quel est le caractère de l'éloquence de Bossuet ? Ah, je vois que vous séchez, Eva. Alors Eva, au deuxième sujet, au choix, l'ignorance de l'avenir est un bienfait pour l'homme.
Je vais prendre Bossuet.
À Dijon, du costaud à Dijon. Ah. Développé directement ou par apologue, cet adage de morale, nul ne prend pour soi la vérité qui le condamne.
Oh mais c'est intéressant en même temps.
À Paris, en 1853, il y avait un sujet pour moi. Raconter en peu de mots la mort de Saint-Louis.
Pourquoi pour vous ?
Parce que je connais un peu quand même. Bon, allez, plus difficile pour moi par contre, la même année, quelles sont les règles des participes dans l'orthographe française ?
Ça j'aime bien ça.
Bon, alors en relisant tous ces sujets, on se dit que notre savoir a bien changé, tout comme les auteurs cités. Mais une chose est sûre, hier comme aujourd'hui, seul le travail paie. Le travail et puis un peu de chance. Alors, merde à tous les candidats.
Et surtout, pas de tricherie, hein, n'est-ce pas Eva ? Parce qu'elle posait la question aux auditeurs, savoir qui avait triché au bac.
Jamais.
Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire, la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et ce matin, Céline, vous aimez les gâteaux ?
Moi j'adore la forêt noire. Ah, oui. C'est bon le cognac. Et le gras aussi. Oui. Ah ouais, c'est bon.
Non, mais oui.
J'adore la truffe.
Oui.
Mmh,
non, mais
bon.
Oui.
C'est bon les sardines.
Oui, mais
aussi,
non, mais oui.
Avec une tranche de pain grillé.
Oui, mais non, mais là, bon, c'était une question idiote. À 6h20, donc n'en dites surtout rien à Céline. Mais cette semaine, c'est la fin du salon de la pâtisserie à Paris, porte de Versailles. Maxime Frédéric, chef pâtissier du Four Seasons Georges V à Paris, sera avec nous. Il nous livrera quelques-uns de ses secrets.
Comment ?
Non, rien Céline, ne dites pas Céline.
Bon réveil, il est 6h17.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Top départ du bac, première épreuve écrite ce matin avec la philo. Les élèves de première générale et technologique plancheront aussi cet après-midi sur l'épreuve de français. Un appel à la grève a été déposé par des syndicats d'enseignants. Impossible de savoir toutefois si le mouvement sera suivi, car dans le secondaire, les grévistes ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré d'ici peu après les violents orages qui ont ravagé de nombreuses cultures dans la Drôme. La FNSEA réclame des avances de trésorerie. Enfin, les Bleus face au Nigeria à Rennes ce soir à 21h, l'équipe de France féminine vise la première place de son groupe. Match à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1, radio officielle du Mondial.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 17 juin et l'actu, c'est aussi le salon de la pâtisserie qui s'achève ce soir, porte de Versailles. Y a-t-il une French touch ? Quand on parle de pâtisserie, est-ce que le secteur recrute ? La pâtisserie a-t-elle su se moderniser à l'instar du reste de la gastronomie ? Pour en parler avec nous ce matin, il fallait un chef pâtissier de renom. Bonjour Maxime Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 en direct. Vous êtes le chef pâtissier des 3 restaurants du palace parisien Four Seasons Georges V à Paris. Parmi vos spécialités, et vous avez eu cette riche idée de venir avec ce matin, le pain au chocolat.
Ça sent tellement bon.
Ou chocolatine. Déjà, c'est quoi votre religion ? Qu'est-ce qu'on dit ? Chocolatine ou pain au chocolat ?
Bon, en Normandie, pas en chocolat exactement. Mais dans mon laboratoire, j'ai aussi des Toulousains, donc ça parle chocolatine. Et,
on va dire
ça chante bien.
Des pains en chocolatine. Et alors, on les a sous les yeux, ils sont absolument merveilleux. Leur texture, je sais pas comment dire ça, visuellement déjà, c'est qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi il y a des rayures dessus ?
Alors en fait, on a fait un pain au chocolat, mais qui va feuilleter aussi bien sur le côté et sur le dessus. On a créé cette technique-là. Et la petite particularité aussi, c'est qu'ils sont caramélisés. Donc on a fait une poudre de caramel.
Oui, parce que vous disiez que c'était un peu trop léger le pain au chocolat. Et donc là,
mais c'est une couche très très fine. C'est comme une fine peau en fait de caramel et qui a deux buts, deux atouts en fait, c'est de bien croustiller et aussi de conserver l'humidité à l'intérieur de la viennoiserie.
Alors j'explique à nos auditeurs parce que Céline Acosta est en train de décrocher. Elle est à deux doigts de s'évanouir. En fait, j'ai donné l'ordre de ne pas se jeter sur les viennoiseries avant la fin de l'interview. C'est très très dur pour Céline. Est-ce que la pâtisserie c'est une passion, j'imagine, que vous avez chevillé au corps depuis longtemps. Vous venez d'avoir 30 ans hier. Bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tard ou dès tout petit déjà
vous... Oui, dès tout petit. En fin de compte, j'ai eu la chance de grandir en Normandie avec avec toute ma famille et notamment mes deux grands-mères qui m'ont donné le goût des bonnes choses. Et c'est vrai que ma grand-mère, une de mes grand-mères en Normandie à Coutances, qui ont une ferme. J'allais donc tout le temps là-bas avec mes petits cousins en vacances. Et c'est vrai qu'à 11h, c'était toujours le petit rituel de faire un gâteau pour toute la famille. Et donc, oui, la tarte aux pommes. Mais quand on a 5-6 ans, on est déjà sur le plan de travail en train de touiller le gâteau au chocolat. On goûte plus oui. que l'on travaille. Mais finalement, c'est le goût des bonnes choses qui sont arrivées ici.
Et Maroc.
Mais dès votre formation, vous avez eu envie d'être chef dans un palace ou c'est arrivé sur le tard
Mais même avant ma formation, en fait.
C'est vrai.
Oui, j'étais. J'ai beaucoup regardé des émissions de pâtisserie et des magazines ou quoi que ce soit. Et j'étais très inspiré par les grands chefs. Et c'est vrai que le monde du palace et le monde des chefs me faisait rêver. Donc je disais à mes parents, je voulais être responsable de la création dans un palace. Alors je savais pas ce que ça voulait dire.
Maintenant
je
le sais.
Mais ça me faisait rêver en fait de pouvoir s'épanouir et de pouvoir créer des desserts, d'avoir une belle équipe et une brigade avec soi pour construire ces moments-là. Quoi.
Alors justement, tout le monde n'a pas les moyens de se rendre dans un palace comme le Four Seasons à Paris, mais pour découvrir votre talent, on peut vous retrouver cet après-midi au salon de la pâtisserie. Alors à quelle heure ?
Exactement, à 14h.
À 14h.
Une petite heure, on va faire une démonstration. Alors en plus, on va faire deux desserts. À la base, il devait y en avoir qu'un, mais bon, c'était mon anniversaire hier, donc je voulais faire une petite fleur à tout le monde. Donc on va faire deux desserts. Il y a un dessert exclusif qu'on a créé la semaine dernière. On travaillait depuis bien longtemps, c'est un millefeuille. Et on l'a validé la semaine dernière. Je me suis dit, allez, on le présente.
Mais pourtant, un millefeuille, c'est classique. Tout le monde a déjà mangé un millefeuille. Qu'est-ce que vous allez pouvoir
faire? C'est un peu comme dans l'esprit du pain au chocolat, finalement. On a fait plus un millefeuille, mais qui se déguste vraiment à la minute. Il est glacé à l'intérieur et il est garni avec au lieu d'avoir une crème diplomate ou une crème légère à la vanille, c'est un riz au lait.
Pardon, je suis décédé. ça fait extrêmement envie. Un mot de ce salon de la pâtisserie qui s'achève donc aujourd'hui Porte de Versailles. Un salon sur lequel a déferlé apparemment une nouvelle tendance dont on parle beaucoup dans la société, le sans gluten. Quel est votre regard sur cette tendance? Est-ce qu'on peut vraiment faire de la bonne pâtisserie sans gluten ou pour vous c'est un sacrilège?
Non, c'est bien sûr que on peut faire des très bonnes pâtisseries et en fin de compte, c'est vrai que moi je suis à la base boulanger, j'ai commencé par la boulangerie, donc forcément le travail de la farine et du gluten, c'est un peu mes bases. Mais en arrivant vers la restauration et on travaille vraiment des textures fines et délicates, et en fin de compte on se rend compte que certaines farines, typiquement la farine de riz ou bien d'autres d'ailleurs, apportent des textures vraiment intéressantes. Notamment on a une farine de riz noir qui est à peine tamisée, donc il y a encore une fine semoule de riz, de grains de riz dedans qui va donner du croustillant et c'est vraiment intéressant.
Même quand vous me parlez du sang gluten, vous me donnez envie.
Ce qui est exceptionnel.
Je terminerai par une question toute personnelle. J'ai l'impression que ça exige beaucoup de précision, oui, la pâtisserie, plus que la cuisine en général. Par exemple, dans une sauce, qu'on mette 100 ou 120 ml de vin, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, quand j'aide ma compagne qui adore la pâtisserie à faire un gâteau, si sur la balance, il y a 99 grammes de farine, on recommence jusqu'à ce qu'il y ait 100 grammes. Ça nous fait perdre un temps fou le week-end. Vous pouvez lui dire là sur Europe 1 qu'on s'en fout, 99, c'est comme 100.
Oui, exactement, c'est quasiment pareil. On est d'accord.
Quand même, c'est pas si précis
que
ça.
Tout dépend l'ingrédient.
Oui, mais c'est quand même de la chimie, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce que vous voulez avec une recette. Hein.
C'est ça. Mais c'est vrai que la différence qu'il y a avec la cuisine, c'est que la pâtisserie, en fin de compte, on va partir de matières premières, mais qui sont difficilement mangeables brutes, c'est-à-dire de la farine, du sucre, un œuf. Et c'est vrai qu'avec, typiquement, aujourd'hui, on a amené l'anécien, qui est un gâteau en fait qui a quatre ingrédients dedans, tout simplement. C'est de la farine, du beurre, des œufs, du sucre. Et en fin de compte, c'est la recette un peu comme un 4 quarts, comme un cake. Et on se rend compte qu'avec quatre ingrédients, on est capable de faire une multitude de recettes différentes, aussi bien passer par une crème pâtissière que par un gâteau ou une madeleine. Et c'est ce qui fait en fait le charme de la pâtisserie, c'est qu'il y a une multitude de champs d'action. Voilà.
Merci infiniment Maxime Frédéric, je crois qu'on a déjà pris 3 kilos rien qu'à vous écouter.
C'est horrible.
Mais on a passé un bon moment. On peut déguster vos créations dans un des 3 restaurants du Four Seasons Georges V à Paris ou venir vous voir à 14h au salon de la pâtisserie cet après-midi, Porte de Versailles.
Europe 1. Et les 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du Stradivarius de l'info, David Doucan. Puis la météo. C'est une belle journée qui s'annonce, ciel bleu et chaleur en perspective.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Céline, faisons un point sur la météo, car l'été est de retour.
Mais oui, il va faire beau, il va faire chaud. 24 à 27 degrés, c'est la température prévue pour cet après-midi. Jusqu'à 32 degrés attendus à Nîmes, il en fera 27 à Paris, un petit peu moins près des côtes de la Manche. Côté ciel, beaucoup de soleil avec à peine quelques nuages. On notera juste un passage pluvieux qui pourrait tourner à l'orage sur les reliefs de l'Est. Et puis quelques nuages également cet après-midi pour les Pyrénées.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui chérit votre information sans pour autant négliger vos zygomatiques. Or, la semaine dernière, en mon absence, vous étiez sans doute nombreux à craindre que mon remplaçant, le jeune Julien Pierre, soit un peu terne, un peu fade et peine à instiller de la fantaisie dans cette tranche info. Eh ben mon neveu, vous êtes inquiété pour rien.
Pour répondre à votre question à Orantène, Céline, les chats qui n'ont pas de poils s'appellent des sphinx.
D'accord.
C'est tout ridé, c'est tout fripé, ça ressemble un peu à des nouveau-nés ou à moi quand je sors de la douche.
Vous avez pas de poils ?
Non, je suis totalement...
Aberbe.
Voilà. Ou épilé, ça dépend.
Et oui, David Doucan m'avait dit qu'avec Pierce, je cite, ils avaient été souvent à deux doigts du fou rire. Je comprends mieux. Heureusement pour le salut de l'info, ils ne sont eux pas là pour plaisanter. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques décortiquent pour vous l'actu. Au programme ce matin, des tensions au sein de La République En Marche en vue des municipales. Et je vous trouve très beau. Ce n'est pas un aveu viril fait à Axel de Tarlet, mais le choix télé des Baroques.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Boule au ventre pour les uns, décontraction, feinte ou réelle pour les autres, la philo ou le français. C'est le bac avec une menace de grève des surveillants cet été, mais le ministère se veut rassurant. Nous souhaitons bon courage aux 740 000 candidats. Jonathan Daval est en ce moment à Gré-la-Ville en Haute-Saône. Il se plie à la reconstitution du meurtre de son épouse Alexia. Il a d'ores et déjà avoué l'avoir étranglé, mais plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir. Le 53e Salon du Bourget, inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron, le président de la République présentera l'avion de combat du futur, un projet à trois, France, Allemagne et Espagne.
Europe 1.
Allez, on respire un grand coup et on se concentre. Tout ira bien. 554 000 candidats dans la filière générale. Pour eux, c'est la philo à 8 heures. 190 000 autres passent leur bac professionnel et ils plancheront sur l'épreuve de français à partir de 9h30. Alors, comment se portent les candidats ce matin ? Marion Jorth a posé la question pour Europe 1.
Bah, je suis un peu stressée et en même temps, on fait ça toute l'année, donc je pense que ça devrait bien se passer.
Le bac, ça nous a fait flipper toutes nos années de lycée. Et là, à quelques heures de l'épreuve, en fait, c'est juste irréel et je suis plutôt sereine.
Moi, j'ai peur des premières minutes où on découvre le sujet et tout. Après, quand t'es dans le bain, ça va.
Non, mais la philo, ça va, je sens plutôt bien parce qu'on peut toujours broder un peu, quoi.
C'est surtout de la chance, en fait. Faut surtout tomber sur quelque chose qu'on veut avoir, qu'on aime faire surtout.
Je suis dans l'état d'esprit que ça passe ou ça casse. Si mes camarades passent alors qu'elles ont une moins bonne moyenne que moi, c'est que je peux le faire aussi.
J'ai vraiment hâte que ce soit terminé et de passer à autre chose.
Passer à autre chose, l'idée traverse peut-être aussi la tête du ministre de l'Éducation nationale. Un mouvement de grève des professeurs est annoncé, ce qui pourrait perturber les épreuves faute de surveillants. Les syndicats protestent contre la réforme Blanquer, en particulier justement celle du baccalauréat. Mais le ministère se veut rassurant et affirme que ses premières épreuves écrites se dérouleront normalement. Et enfin, deux chiffres. Le candidat le plus jeune, Mathieu, 11 ans, il passe un bac S dans l'Académie de Versailles. Vous n'êtes pas du tout concentré ce matin.
Le plus âgé, sans même avoir la feuille. Le plus âgé, c'est 77 ans de mémoire.
77 ans,
oui, bon voilà.
Dans la région de Dijon. Et il sera d'ailleurs tout à l'heure l'invité d'Hélène Zellani dans le journal de 7h. La reconstitution du crime se déroule en ce moment. Jonathan Daval est arrivé un peu avant 5h à Gré-la-Ville en Haute-Saône, la zone pavillonnaire où il a, selon ses aveux, étranglé son épouse Alexia en octobre 2017. Cette reconstitution doit éclaircir deux points. L'informaticien de 35 ans reconnaîtra-t-il aussi avoir tenté de brûler son corps ? Et puis, admettra-t-il avoir porté des coups très violents, tels que le suppose le médecin légiste qui devait également assister à la reconstitution du meurtre ? Impossible de savoir pour l'instant ce qui se passe à l'intérieur de la maison du couple, mais Randall Schwerdorfer, l'avocat Jonathan Daval, nous livre quelques éléments sur l'état d'esprit de son client.
Il n'est pas préparé comme il n'était pas préparé aux confrontations. Il est dans la spontanéité et il est dans l'émotionnel. On le soutient, on est avec lui. Et c'est lui qui décidera, en fonction de la façon dont les choses se passeront, de participer plus ou moins activement à la reconstitution. On ne force jamais Jonathan à faire quoi que ce soit. On travaille avec lui, on participe avec lui, mais en aucun cas on ne le dirige ou on ne le force.
Maître Randall Schwerdorfer au micro Europe 1 d'Arthur Mbaché.
À suivre dans ce journal, je ne rate jamais une occasion de prendre l'avion, car oui, j'aime l'avion.
Reprendre
c'est le
l'avion.
Salon du jour. C'est
reprendre l'avion.
Pardon, je ne lis pas toujours exactement ce que vous m'écrivez, c'est vrai.
Compris,
c'est mon erreur. C'est le Salon du Bourget aujourd'hui, on vous parle guerre des airs dans un instant, à tout de suite.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le 53e salon du Bourget ouvre ses portes.
Oui, d'abord réservé aux professionnels, pour le grand public, c'est à partir de vendredi. Emmanuel Macron inaugure le plus grand rendez-vous de l'aéronautique au monde, tout à l'heure, avec un grand projet. Celui du futur avion de combat, une ambition, France, Allemagne et Espagne. De quoi s'agit-il exactement, Emmanuel Dutheil ?
Le calendrier de lancement de ce nouvel avion de combat est encore flou, on parle de l'horizon 2040. Mais l'objectif, lui, est très clair, l'Europe doit rester autonome sur ses moyens de défense face aux États-Unis. Il n'y a pas qu'un avion en préparation, Français et Allemands veulent mettre sur pied un système complet de défense, avion de chasse donc bien sûr, drone ou encore satellite. D'où le nom du projet, système de combat aérien du futur. Allemands et Français ont été rejoints récemment par les Espagnols dans ce projet et les trois ministres de la Défense et ou des Armées vont justement signer ce matin formellement un accord cadre, le but faire avancer ce chantier titanesque. Ça va se passer sur le stand de Dassault en présence du chef de l'État, un choix qui n'est pas que symbolique. Avec le Rafale de Dassault, la France est en effet en pointe au moins sur le marché des avions de combat. L'idée, en tout cas, c'est d'allier les forces de tout le monde et de mutualiser les moyens financiers pour avoir une chance de résister face aux mastodontes américains.
Emmanuel Dutheil pour Europe 1. À Hong Kong, les manifestations ont continué ce lundi. Les protestataires viennent tout juste de se disperser dans le calme. Hier, ils étaient 2 millions et la rue a obtenu la libération du leader étudiant Joshua Wong, qui a immédiatement demandé la démission de la chef de l'exécutif. Celle-ci a d'ores et déjà présenté des excuses. Et je vous rappelle que le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine, c'est la cause de cette colère. Eh bien, ce projet de loi a été suspendu. Retour à la normale en Argentine et en Uruguay. Après une gigantesque panne, près de 50 millions d'Argentins et d'Uruguayens ont été privés d'électricité hier pendant plusieurs heures. Et maintenant, cette idée originale, à Reims, des élèves de CM2 et de 6e ont vu toute l'année intervenir des policiers et des magistrats pour leur expliquer le fonctionnement de la justice. Et l'aboutissement, la semaine dernière, c'était un faux procès. Les enfants dans le rôle des victimes, des prévenus, mais aussi des jurés, avec pour les encadrer de vrais juges, avocats et procureurs, et un dossier bien réel qu'il leur a fallu rejuger. Reportage, Jean-Sébastien Soldaini.
Dès l'entrée du juge et de ses assesseurs, chacun écoute patiemment les débats.
Je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez avoir dit...
Une heure d'interrogatoire, de réquisition, puis Tanté et ses amis, 11 ans, se lancent dans un délibéré avant de se justifier.
Il n'a pas essayé de la tuer.
Et puis en plus, il a menti.
Et après...
Et puis on n'a pas le droit de frapper une fille aussi.
Du coup, on est d'accord, 4 ans de prison ferme.
2 ans et 6 mois.
Au début, on voulait mettre 4 ans. On croyait que c'était trop, du coup on a mis 2 ans, mais on trouvait que c'était le mieux. Il peut pas traîner dans la rue avec une arme.
La peine choisie est bien plus lourde que celle prononcée dans la réalité. 3 mois avec sursis. Difficile de tout appréhender, le contexte, la personnalité du prévenu. Chantal Bin, la substitut du procureur, en est bien consciente, mais elle a un objectif plus précis.
Dans le cas d'espèce, le mineur s'était laissé influencer. Et effectivement, on voudrait les sensibiliser sur l'usage des armes. La consommation de stupéfiants, c'est très important qu'il y ait cette conscience.
Car ces élèves se trouvent à un moment charnière, fin d'école primaire, début du collège, âge où il faut apprendre à se défaire de la mauvaise influence des plus grands. Prince Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et concluons avec la Coupe du Monde. Les Françaises jouent ce soir leur dernier match de poule. Ce sera face au Nigeria à Rennes. Soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Match en direct et en intégralité. Les Bleues sont d'ores et déjà certaines d'être qualifiées. Mais l'enjeu, c'est de finir première du groupe. Et pour cela, il suffira d'un match nul.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste sérieux 99% du temps. En revanche, sur les 1% restants, il est capable d'aller assez loin. Comme vendredi, lorsqu'il s'est permis une discrète référence à Christian Clavier dans Les Visiteurs, en prononçant de manière un brin véhémente le nom d'une consoeur.
Roman Hockey pour Europe 1. Et quelques... Qu'est-ce qui vous arrive, Julien?
Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Tu le manges, le hockey. T'es pas obligé de nous faire Jacouille la fribouille, quoi, tu vois.
Ok. On passe à la météo. Ok.
Ok, ok.
Ok, Céline, c'est à vous. Alors, on le voit hier, fribouille.
Allez, ah,
David Doucan.
Avec une très belle journée, hein,
très,
aujourd'hui.
Très belle journée,
ouais, du soleil pour tout le monde. Quelques nuages à peine hein, près des côtes de la Manche pour ce matin. On en trouvera aussi du Jura aux Alpes avec là un risque d'orage pour cet après-midi. Un petit peu de nuages aussi sur les Pyrénées, mais alors partout ailleurs. Ça sera grand soleil avec des températures en hausse. Hein, il fera 24 à 27 degrés en moyenne, 28 à 32 même sur l'extrême sud. 32 degrés et la maximale est attendue à Nîmes, 27 à Paris.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, on aurait pu confier les éditos de cette tranche info à Céline Dacosta, notamment sur l'édito géopolitique, car son analyse est souvent passionnante.
Il faut pas trop l'énerver, Kim Jong-un. Oui.
Il est un peu fou, faut dire. Voilà.
Non mais je suis...
Pardon. J'ai rien dit. Non, oulala.
On a préféré confier les éditos aux trois fantastiques. Au programme ce matin, les municipales se préparent dans la douleur au sein de la majorité et Thalès remplace Valeo dans le CAC 40. Promis, Axel de Tarlet rendra tout ça limpide et passionnant, comme d'habitude.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
740 000, c'est le nombre de candidats du bac, la philo à 8h dans la filière générale, le français à 9h30 pour les bacs pro. Et un mouvement de grève des professeurs entraînera-t-il des perturbations, faute de surveillants? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, affirme que les épreuves se dérouleront normalement. Une reconstitution est en cours à Gré-la-Ville en Haute-Saône. Jonathan Daval est actuellement dans le pavillon où il a, selon ses aveux, étranglé son épouse Alexia en octobre 2017. Les magistrats veulent savoir s'il a aussi tenté de brûler son corps. Enfin, les Français jouent ce soir leur dernier match de poule. Ce sera face au Nigeria à Rennes. Soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rosso sur Europe 1. Match en direct et en intégralité. Les Bleus sont d'ores et déjà certaines d'être qualifiées. Mais l'enjeu, c'est de finir première du groupe. Et pour cela, il suffira d'un match nul.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
C'était ma grande angoisse. En mon absence, la semaine dernière, les trois fantastiques se montraient-ils aussi fantastiques que d'habitude? Eh bien oui, ils ont été formidables. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et surtout, surtout, Axel de Tarlet pour l'économie et les blagues de qualité. Axel qui, vendredi, nous offrait un bijou. Un diamant brut de l'humour qui, hélas, n'a pas eu en studio l'impact qu'on était en droit d'attendre d'une si grande vanne.
Et tout d'un coup, cette chanson...
Chien.
Oh, Axel.
C'était la blague à l'époque.
C'était la blague ?
Ne me demandez pas de la répéter.
Non, je ne vais pas vous la faire répéter.
Assis, bonanga, assis, mon chien.
Axel, je vous laisse débriefer avec vous-même dans un coin du studio, un coin peut-être sombre du studio. Nous, on commence par la politique avec Mickaël Darmon.
Ça va être facile. Hein.
Voilà. Alors, La République En Marche, on parle politique, La République En Marche entre dans une zone de turbulence, Mickaël, notamment à Paris, où les marcheurs sont divisés, mais cette situation n'est pas limitée à la capitale.
Oui, alors on va quand même commencer par la tension la plus emblématique pour la mairie de Paris. Ils sont 5 pour une place de candidat, Benjamin Griveaux, Cédric Villani, Mounir Majoubi, Hugues Rançon et Anne Le Breton. La décision de La République En Marche d'organiser un grand oral début juillet provoque la colère de 4 candidats sur 5. 40 minutes pour chacun, décision en 24 heures. C'est la meilleure preuve que rien n'a changé dans la pratique politique, que tout est verrouillé à l'ancienne, déplore de concert donc les candidats. Pour eux, un objectif, repousser le processus donc à la rentrée et avec une consultation citoyenne, formule macroniste pour dire une primaire. Pour Benjamin Griveaux, il n'en est pas question. L'ancien porte-parole du gouvernement, candidat à l'investiture et qui travaille de longue date à un projet pour Paris, eh bien veut au contraire que ce processus soit bouclé le plus vite possible par la commission d'investiture. Il est d'ailleurs considéré comme le favori. Il insiste sur sa volonté d'union, ce qui ne règle pas le problème. Pour autant, c'est quand même un casse-tête pour Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, éviter la foire d'empoigne dans les coulisses. Pour l'instant, aucun accord ne se dessine malgré son appel au calme. Et du côté de Anne Hidalgo, je peux vous dire qu'on se réjouit de ces actuelles divisions chez les macronistes.
D'autant que d'autres problèmes surgissent dans la préparation des municipales ailleurs sur le territoire.
Situation délicate à Lyon également. L'arbitrage qui doit intervenir dans les prochains jours doit rapprocher les points de vue peut-être entre Gérard Collomb et David Kimmenfeld, le rival marcheur à la métropole. À Bordeaux, à ce stade, La République En Marche, on prévoit d'envoyer un candidat contre le successeur d'Alain Juppé. Dans l'Or également, selon Le Parisien, eh bien, des tensions très fortes pour La République En Marche. Un test pour ce jeune parti qui doit donc régler une dizaine de cas donc d'ici l'été. Et Emmanuel Macron, bien sûr, suit de très près cette décision. Aucune décision stratégique ne sera prise sans son aval, selon la tradition de la Ve République. Après le grand débat, eh bien voilà Emmanuel Macron plongé dans le grand bain municipal.
Merci Mickaël Darmon pour ce regard politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Le CAC 40 nouveau est arrivé. Il y a du changement dans ce club très sélect des plus grandes entreprises de France cotées en bourse.
Ben oui, le CAC 40, c'est comme en football, vous savez, il y a une Ligue 1 et une Ligue 2. Il y a des clubs qui descendent de Ligue 1 à Ligue 2. D'ailleurs, vous voyez, en
Ligue 1, c'est Caen, je crois, cette année qui descend en Ligue 2. Et dans l'autre sens, c'est Brest qui monte. Alors,
il connaît aussi le foot, il est incroyable.
Alors, il y a la même chose qui s'est passée dans le monde des entreprises. Hein. La Ligue 1, c'est le CAC 40, et la Ligue 2, dans le monde des entreprises, ça s'appelle le SBF 120. Et ben, il y a une entreprise du CAC 40, donc ils sont 40 hein, dans les entreprises, qui descend. Et celle qui descend, ça s'appelle Valeo. Valeo, c'est l'équipementier automobile.
Mais c'est énorme, Valeo, non ?
Eh bien oui, ben, ce matin, ça va être relégué en Ligue 2, puisqu'en fait, ils ont eu des problèmes en bourse, puis ils ont des problèmes. Le marché de l'automobile, notamment en Chine, est compliqué. Et à l'inverse, il y a une petite équipe qui est en train de monter en Ligue 1. Enfin, c'est une grosse équipe, vous allez voir. Non, c'est Thales. Thales, c'est une entreprise. Non, il n'était pas au CAC 40, il était justement, il était en Ligue 2, il était dans le SBF 120, et donc il monte au CAC 40, il monte en Ligue 1, et donc c'est une fierté hein, d'ailleurs hein, chez Thales, c'est toujours une fierté d'être dans le CAC 40.
Genre ils font un petit pot, ils ouvrent un petit crément d'Alsace.
Je peux vous dire que quand EDF a quitté le CAC 40, c'était un coup sur la tête. Donc Thales monte au CAC 40, c'est un spécialiste de l'aéronautique, et c'est intéressant parce que de l'aéronautique civile et militaire, parce qu'on est en plein salon du Bourget, et on s'aperçoit que ce CAC 40 reflète très bien les deux grandes forces de l'économie française, que sont 1. Le luxe et 2. L'aéronautique. Si vous regardez le CAC 40, parce qu'il y a un classement après, le PSG, le numéro 1 du CAC 40, donc l'équivalent du Paris Saint-Germain, eh bien c'est LVMH. Et en numéro 2 dans le CAC 40, vous avez L'Oréal. En numéro 6, vous avez Hermès. En numéro 7, vous avez Kering. Et donc, ces 4 entreprises pèsent à elles 4 un quart du CAC 40. Et en face, maintenant, vous aurez Airbus, Safran, c'est les moteurs, numéro 1 mondial des moteurs d'avion, et Thales pour l'électronique aéronautique.
Merci beaucoup Axel de Tarlé pour ce comparatif Ligue 1 CAC 40. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Alors j'avais initialement prévu de vous parler de la soirée d'M6 avec la diffusion d'un prime time spécial et une idée consacrée au programme court En Famille qui revient à l'antenne bientôt, tous les soirs à 20h20 en remplacement de scène de ménage. Mais ce soir, vous allez voir une rediffusion d'un ancien prime. L'inédit devra attendre encore quelques jours, non pas parce qu'il n'est pas prêt, mais parce que la chaîne a semble-t-il préféré cette option, sachant que TF1 proposait au même moment le match de Fos France-Nigeria. Or, les audiences de l'équipe de France féminine sont tellement incroyables que M6 tente de minimiser les risques. Alors en attendant, si vous n'aimez pas le foot et que vous avez déjà vu ce En Famille, vous pouvez toujours regarder France 3 et la comédie d'Isabelle Mergo, Je vous trouve très beau, quand Michel Blanc incarne un agriculteur veuf qui s'en réfère à une agence matrimoniale pour trouver une femme.
Alors, est-ce que vous aimez la musique classique ?
Obispo, des trucs comme ça ?
Oui. Et pour le physique, vous préférez quoi ?
Blonde, brune ?
Bah oui, avec des cheveux quand même.
Et c'est en Roumanie qu'il va débarquer pour tenter de trouver la perle.
I love Paris, France.
Et je vous trouve très beau.
J'adore Moulin Rouge.
Je vous trouve très beau.
Je vous trouve très beau.
Je vous trouve très beau.
Pourquoi elles disent que je suis beau ? Expliquez-lui que je suis pas beau.
Bah, elle le voit. Hein.
Moi, Elena.
Si elle vous trouve beau, moi, peut-être des critères roumains.
Je vous trouve très...
Très beau, ça je sais.
Bon, ah non, pas du tout.
Faut pas exagérer quand même.
Mieux que Tinder et L'amour est dans le pré, ce film aussi entre la comédie et le drame avec un duo attachant qui est incarné par Michel Blanc et Médéa Marinescu. Émotion garantie, même pour vous Mathieu, qui n'êtes
même
pas si fleur bleue que ça.
Bon, ouais. Enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Je suis très fleur bleue, je suis le romantisme incarné.
C'est vrai, c'est vrai. Allez.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Mickaël Darmon, Axel de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer la main à Nico Saliagas pour la matinale d'Europe 1, matinale qui sera évidemment précédée d'un petit débrief des meilleurs moments de la semaine passée, marqué par les nouveaux placements produits discrets d'Axel de Tarlé. Constatant avec bonheur que Seb avait été très prompt à lui envoyer un robot mixeur dernière génération et se disant qu'il avait du matériel de randonnée à acheter pour l'été, il a appliqué la même méthode.
Décathlon, à fond la forme. Ta-da-dan.
Si vous pouvez rajouter un réchaud à gaz, c'est pour un ami. Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale d'Europe 1.
Et il est 6h52. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine et voici venu le moment jadis stressant pour Nico Saliagas du débrief de ses performances de la semaine passée. Je dis jadis car désormais Nico s'en fout. La saison touche à sa fin, il a déjà appelé son majordome à Sifnos pour qu'il mette du charbon de bois dans le barbecue. Avant, quand le débrief approchait, il me disait « Attention, vas-y doucement, ne mets pas des extraits trop hardcore ». Maintenant il me dit
« Allez-y, faites péter ».
Eh bien je m'exécute, cher Nico. Alors tout d'abord ce matin, j'aimerais saluer votre professionnalisme. Car à l'approche des vacances, nombreux sont ceux qui à votre place auraient lever le pied sur la bonne humeur et les compliments. Or, il semble que jusqu'au bout, vous resterez pour nos auditeurs cette intarissable source d'énergie communicative, un peu comme Laurent Cabrol.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Nikos.
Vous êtes très pétillante ce matin.
Mais je vous remercie, vous aussi.
Êtes-vous aussi pétillant que Lolo Cabrol ?
Ça va être difficile.
Quelle énergie ! Laurent Cabrol, dont je moque le manque d'entrain, et qui est cependant une pile électrique comparée à Anissa Mbida, notre spécialiste innovation, qui, à force d'innover, est au bout du rouleau en cette fin de saison. Il n'en peut plus et il ne comprend pas comment Céline Dacosta peut rester si tonique après tant de réveils matinaux.
Comment ça va, toi ?
Ça va, moi.
Allez, trois semaines, on est au taquet, là.
C'est un fan qui me disait, mais comment elle fait pour être toujours au taquet ?
C'est la drogue !
Bien. Les journalistes aussi commencent à accuser le coup dans la rédaction, ceux qui en tout cas n'ont pas les mêmes fournisseurs que Céline. Ainsi, David Doucan, présentateur émérite du journal de 8 heures, d'habitude connu pour sa diction irréprochable, et qui la semaine dernière a buté à 9 reprises sur la prononciation du nom du géant chinois des téléphones Huawei, qu'il a donc prononcé 9 fois différemment. Sur la fin, il a même eu recours à un stratagème bien connu des journalistes, la Tout Actor Studio, pour détourner l'attention.
Le géant Huawei traverse une très mauvaise passe, mais Huawei a un plan pour sauver les meubles, les informations de François Geffrier.
On a perçu le fou rire ou on a cru que j'avais toussé ?
T'as essayé de tousser en Actor Studio, en fait.
Ah bah oui ! Mais Huawei a un plan pour...
La technique est habile, mais on a quand même senti que David était en galère. Et en parlant d'être en galère, comment ne pas évoquer, pour finir, le splendide dérapage contrôlé qui aurait pu se terminer en crash de Nikos vendredi.
Ah bon ?
Nikos qui voulait se lancer dans une comparaison entre le verbe de Jean-Michel Apathy et la quoi déjà ?
Apathy tarlé, le verbe et...
J'ai pas dit verge, hein, j'ai failli. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans ma tête.
J'ai dit non.
Oui, la verve.
Coup de volant au dernier moment qui vous évite la sortie de route. Comme quoi on apprend de ces accidents. Je pense évidemment à l'accident dit de Zizou.
Une bonne nouvelle dans le monde du foot. Zidane revient. Zizi, Zizou.
Comme quoi, vous avez bien progressé.
Ah, ça fait plaisir de vous retrouver.
Ah, moi aussi.
Vous n'avez rien perdu de votre verbe.
C'est bien là l'essentiel.
Tant qu'elle est en place, tout va bien. Merci beaucoup Mathieu Noël. Merci, journée, reposez-vous Nikos. Bien et à demain. Merci Eva Roch.
Merci Nikos, bonne journée.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.